L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM en direct à midi et rediffusé à 18h. Le jeudi, vous le savez, on est très nature avec nos différents partenaires. Une fois par mois, Bretagne Vivante nous fait découvrir la faune, parfois la flore de notre région. Aujourd'hui, c'est un amphibien. Notre invité est herpétologue, ça veut dire qu'il s'y connaît en reptiles. La vedette du jour a quatre pattes et une symbolique qui a marqué l'histoire, sans doute en raison de sa robe noire et jaune très éclatante. Elle a un petit côté dragon aussi. On a dit d'elle qu'elle était un lézard, ce qu'elle n'est pas. François Ier en a fait son emblème. On la voit sculptée en bas-relief au-dessus de la porte d'honneur du château d'Amboise. Elle figure aussi sur le château de Fontainebleau. Elle est belle. Et Stéphane Visa, naturaliste de Bretagne Vivante, va donc nous raconter la salamandre tachetée. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors cette salamandre tachetée, c'est une espèce de salamandre, il en existe bien d'autres je suppose ?
Dans le monde, pas tant que ça en fait. Il y en a 7, si ma mémoire est bonne, à l'échelle de la planète. Et il y en a 4 en France. Mais les 3 autres ont vraiment des répartitions très réduites, quoi. Il y en a une qui est en Corse, qui est l'équivalent de la salamandre tachetée qu'on a chez nous, mais en Corse. Et il y en a 2 qui sont réduites à quelques massifs alpins. Voilà. Et sinon, la plus répandue, même à l'échelle de la planète, c'est la salamandre tachetée, la salamandre qu'on voit en Bretagne.
Voilà. Elle vit donc en Bretagne. Alors, quel est son mode de vie, cette salamandre, qui n'est pas un lézard ?
Non, c'est pas un lézard, c'est pas un reptile, donc c'est un amphibien, comme tu l'as dit, ou un batracien, c'est pareil, les deux mots veulent dire la même chose. Alors, comme tous les amphibiens, elle utilise deux types d'habitat en fonction de son stade. C'est-à-dire, au stade larvaire, elle utilise un habitat aquatique. Et au stade adulte, elle utilise un habitat terrestre. Voilà. Alors, l'habitat terrestre classique de la salamandre tachetée en Bretagne, c'est la forêt de feuillus. Mais on la trouve aussi dans les jardins, on la trouve aussi dans le bocage. Et donc elle passe la majorité de sa vie, et même la totalité de sa vie d'adulte sur la terre ferme. Et une vie d'adulte de salamandre,
c'est combien de temps,
ça peut être long, hein, ça peut vivre 20-30 ans. Quoi. C'est un amphibien qui vit très longtemps.
Oui, en effet.
Je crois même que le record il doit être autour de 50 ans, mais en captivité. Donc c'est pas mal.
Et donc, c'est grand comment en général d'ailleurs pour les gens qui n'en auraient jamais vu ?
Une vingtaine de centimètres. Voilà, 20 ans, 20 centimètres, c'est facile à s'en souvenir. Et donc la salamandre, elle est complètement liée à des habitats frais et humides. Elle se reproduit à partir de 5-6 ans. Et tous les ans, donc, les femelles vont à l'eau. Pour larguer leurs larves qui elles donc vont rester dans l'eau quelques mois quoi. Voilà. Donc vraiment c'est un animal terrestre quoi.
On va revenir sur le cycle de reproduction plus en détail. Ça mange quoi une salamandre, juste comme ça pour
des invertébrés, des invertébrés terrestres donc pour les adultes ou les jeunes salamandres,
c'est-à-dire
des insectes s'ils sont pas trop durs quoi. Hein, voilà donc.
Elle a des dents quand même la salamandre.
Elle a une mâchoire avec des micro dentition, mais une micro-dentition, je ne sais pas si on peut parler de dents. En fait, c'est plus une râpe, quoi. Et du coup, elle consomme des limaces, des corps mous, elle peut consommer des cloportes aussi, c'est pas très solide. Voilà. Et puis, au stade aquatique, c'est pareil, elle va se nourrir de diverses larves d'invertébrés aquatiques. Des larves de perles, des larves éphémères, des jeunes larves d'agrions, c'est-à-dire des demoiselles. Enfin voilà, diverses groupes aussi d'insectes. Quoi.
Donc elle est carnivore. Quoi.
Elle est carnivore, oui. En disant un mot, c'est ça, elle est carnivore.
Alors son cycle de vie, est-ce qu'on peut le retracer alors justement sur du stade larvaire jusqu'à la mort ?
Alors, On va commencer par l'accouplement, voilà, qui a en Bretagne, en fait, comme on est un climat océanique où il n'y a pas vraiment grosse différence entre les températures l'hiver, même l'été, il n'y a pas une grosse amplitude, il n'y a pas beaucoup de gel, le cycle théorique, quoi, il est sujet à variation suivant les conditions météo du moment, quoi. Mais globalement, l'accouplement, il a lieu plutôt en été, donc sur la terre ferme, en fait. Et ensuite, il y a une gestation de plusieurs mois et il y a un premier.
Ah oui, plusieurs mois.
Oui. Et en fait, elle a aussi la capacité de stocker en fait les embryons. En arrêtant leur développement, en fait.
Sans que ça soit des œufs pour autant.
Enfin... Non. Oui. Donc, elle a cette particularité-là. Donc, si les conditions ne sont pas réunies à l'automne, c'est-à-dire maintenant pour aller à l'eau parce qu'il fait trop froid, etc., ben, c'est pas grave, elle entre en hivernation, puis elle fera ça plus tard, au printemps prochain, quoi.
Pratique.
Oui, c'est pas mal. Et donc.
Et il y a un seul mâle qui féconde ou peut y avoir plusieurs mâles, comme dans d'autres espèces, qui fécondent
Non. Alors. Je pense qu'elle peut être fécondée par plusieurs mâles. En tout cas, d'une année sur l'autre, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain.
Il n'y a pas de fidélité dans le couple.
Non, voilà. Et puis, en plus, il y a même des cas où on a découvert qu'elle pouvait stocker les œufs fécondés plusieurs années, quoi. Ça peut être très, très long. Donc, je pense que ça ne pose pas de souci de se reproduire avec plusieurs mâles, quoi. Et donc la femelle, elle va à l'eau, alors il y a deux pics de reproduction, février-mars, début du printemps ou automne, c'est-à-dire maintenant.
C'est pour ça qu'on fait l'émission maintenant, voilà, en octobre.
Oui, parce que c'est un bon moment dans l'année pour les voir, quoi. Et parce que là, les femelles retournent à l'eau, alors à l'eau, c'est un ruisseau en général, c'est une ornière forestière, un ruisseau à Courland, hein, voilà, faut pas que ce soit trop rapide. Une ornière forestière, une mare, un lavoir, voilà, ça, c'est pas très exigeant finalement en termes de milieu aquatique. Mais quand je dis elle va à l'eau, c'est pas vraiment vrai, parce qu'en fait elle va au bord de l'eau, où elle rentre dans l'eau quand elle a pied, et elle largue ses têtards directement, elle largue ses larves, elle ne pond pas d'œufs.
Ah oui.
Voilà, elle largue les larves directement dans le milieu aquatique.
Et elle ne s'aventure pas trop parce qu'elle ne sait pas nager, c'est ça?
Bah, ou parce qu'elle nage mal en fait. Elle flotte, elle flotte. Comme elle peut, entre deux eaux, et puis elle essaye de regagner vite la terre ferme, parce que sinon elle s'épuise et elle meurt noyée. Donc si vous croisez une salamandre, la remettre dans l'eau, c'est vraiment pas une bonne idée.
Non, en effet.
Parce que ça vit sur la terre ferme et ça nage très mal. Voilà, et donc...
Donc les larves sont déjà nées, en fait, quand elles arrivent dans l'eau, c'est ça? Quand elles sont larguées,
oui,
dans l'eau?
Oui.
Donc c'est des tétards, on dit tétards aussi pour une salamandre?
Oui, on peut dire tétards.
Bon, d'accord.
C'est ce qu'on appelle l'ovoviviparité, c'est-à-dire qu'en fait l'œuf éclot quasiment à l'éclosion et même à l'intérieur de façon intra-utérine, mais le tétard continue à vivre sur ses réserves en fait un peu vitalines, quoi, voilà, et largué dans l'eau directement.
Donc c'est la même stratégie que pour la plupart des amphibiens, on fait beaucoup d'enfants, entre guillemets.
Ben justement, dans ce cas-là, non. Non, parce que quand les larves sortent de chez la femelle, elles sont déjà un peu costauds.
Ah, elles
résistent. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir une production de plusieurs milliers d'individus. Une salamandre, c'est une cinquantaine de larves chaque année. C'est pas beaucoup, en fait, pour un batracien.
Et donc, combien vont survivre, à peu près,
alors là, j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce type de statistiques. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des prédateurs, quoi. Hein, et même les premiers d'entre eux sont les autres salamandres. Voilà, que ça soit. Il y a même eu des cas où ils ont constaté une prédation intra-utérine. Donc, déjà, dès le début, ça se passe pas bien. Et ensuite, dans l'eau, en fait, les larves de salamandre, elles mangent tout ce qui est plus petit qu'elles, y compris frères, sœurs.
Ah oui. Ils se mangent entre frères et sœurs.
Ouais.
Charmant.
Oui. Et puis, elles peuvent se faire manger par d'autres. Par d'autres bêtes, comme des larves de libellules, même, hein, des grosses larves de libellules, des petits poissons, d'autres amphibiens, des oiseaux. Enfin bon, voilà, c'est au stade larvaire, à mon avis, ça doit écrémer pas mal, quoi, pour parler crûment. Après, au stade adulte, je pense que elles sont moins prédatées parce qu'elles ont des couleurs vives qui avertissent qu'elles sont empoisonnées.
C'est ça, on va y revenir. Ouais,
voilà.
C'est ça,
ouais. Et du coup, même un chat qui viendra croquer une salamandre. Le regretterait amèrement, peut-être même au risque de sa vie.
Et, il est où le poison exactement
et n'y retournerait pas, quoi.
Mmh. Il est où voilà. exactement bah, le poison
de la salamandre il est concentré sur, dans plusieurs types de glandes qui sont au niveau dorsal, puis aussi surtout derrière l'œil, quand on regarde une image de salamandre ou quand on en voit une en vrai, on remarque une zone, une protubérance derrière l'œil un peu granuleuse. C'est ce qu'on appelle les glandes parotoïdes. Et c'est typique en fait des amphibiens, des salamandres, mais on a aussi chez les crapauds notamment. Et c'est à partir de ces glandes qu'elle peut exsuder un venin. Mais qu'elle n'a aucun pouvoir d'inoculer, quoi. C'est juste une petite transpiration de venin, quoi.
C'est destiné à ceux qui la mangeraient. C'est pas, par exemple, si on touche une salamandre, est-ce qu'on peut avoir une réaction épidermique ou...
Alors, on pourrait avoir une réaction épidermique. Qui serait pas mortelle en fait, hein. C'est une inflammation un peu des muqueuses, quoi. Par contre, c'est souvent le cas quand après avoir touché une salamandre, on se frotte les yeux, quoi. Voilà, ça il faut absolument pas
ah
le
ouais,
faire.
C'est pas malin.
Voilà, ouais. Mais déjà, de toucher une salamandre, c'est pas malin. C'est même interdit.
Ah oui.
Bah oui, parce que c'est une espèce qui est protégée par la loi, hein, qui est une protection intégrale, mais comme tous les amphibiens, donc on n'a pas le droit de les manipuler. Et puis, bah, c'est déconseillé aussi parce que même les amphibiens respirent par la peau, et que pour que les échanges gazeux soient efficaces, elle est recouverte d'un mucus spécialement dédié, qui est voilà une espèce de gangue un peu humide. Et si on la touche, on risque de lui enlever et de précipiter. Ça peut même la tuer, quoi. Et puis en plus ça peut aussi être le moyen pour lui transférer des agents pathogènes qui peuvent être embêtants pour les amphibiens. Donc ça fait trois bonnes raisons de pas les manipuler, en fait.
Et de toute façon, sinon elle mord pas la salamandre, elle est pas agressive.
Non, pas du tout.
Il n'y a pas de raison d'avoir peur de la salamandre.
Ah non, en fait on se rend bien compte quand on la croise dans le jardin ou sur un chemin forestier, ça reste au milieu du chemin et ça, voilà, et il y a aucune volonté ni d'attaquer ni de fuir, quoi, même, hein, c'est vraiment très très pacifique et très très tranquille, quoi.
En plus, ça fait même pas de bruit, on peut même pas vous faire entendre la salamandre.
Non. Alors ça fait pas de chant aussi développé que les crapauds ou les grenouilles, mais ça peut produire des sons quand même malgré tout, mais il paraît qu'on a déjà enregistré des sons de salamandre, j'ai jamais trop entendu, mais ça doit pas être ni très puissant ni très développé.
Et on n'a rien dit de la parade nuptiale, il y en a une de séduction des salamandres.
Pas vraiment. Chez les tritons, il y a ça, ouais.
Oui, justement, parce que que la salamandre, on peut éventuellement la confondre avec le triton marbré quand on connaît pas bien.
Oui.
La grosse différence, c'est quoi ? C'est le triton, déjà, il vit beaucoup plus dans l'eau, non ?
Le triton marbré, il a une face terrestre qui est aussi longue, hein, alors pas autant que la salamandre, mais.
Lui, il va sous l'eau, par contre, le triton.
Oui, lui, il nage, et puis il nage bien. Alors, ça s'explique aussi par la forme de la queue, qui est complètement différente. La salamandre, elle a une queue cylindrique ou subcylindrique, enfin, c'est. Voilà, comme une perche, quoi. Tandis que le triton marbré en particulier, ils ont une queue aplatie latéralement, en fait, en forme de rame, quoi. Donc forcément, c'est des nageurs hors pair, contrairement aux salamandres. Et puis le triton, bah, comme son nom l'indique, il a des marbrures vert olive, quoi. Et puis il a cette ligne dorsale orange, alors que la salamandre, elle est noire avec plus ou moins de taches jaunes selon les individus, mais c'est la même taille, quoi, hein. Donc, ouais.
Est-ce que chaque individu a son motif très personnalisé? On pourrait toutes les reconnaître,
oui.
C'est ça?
Oui. Il y a des cortèges, il y a des types de tâches, et on peut les classer par grandes catégories, mais en général, il y a La salamandre, elle est noire, et puis sur ce fond noir, il y a plus ou moins de taches jaunes. Et du coup, il y a même des individus, mais eux, qui sont complètement noirs, sans taches. Il y a des individus qui sont très, très, très jaunes. On croit qu'ils sont jaunes à taches noires, mais ça reste l'inverse. Et puis, en général, sur le dos, en fait, il y a deux lignes parallèles, avec plus ou moins de taches jaunes, de chaque côté de la crête un peu dorsale. Et au niveau de la queue, c'est un peu plus anarchique, le dessin. Et puis il y en a aussi sur la tête, mais et puis il y a quelques individus aussi qui ont des taches orange et, wow. et pas noire et pas jaune pardon.
Et elle change de peau, elle mue aussi ou pas?
Elle mue, ouais. Ouais, ah. ouais, elle mue, mais toute sa vie elle va muer, en tout cas jusqu'à la taille définitive. Ensuite, c'est pas comme les mues de serpent qu'on peut trouver de temps en temps en milieu naturel, c'est parce que ça mue en lambeaux, quoi. Voilà.
Ouais, donc, on peut pas les récolter.
Et puis en plus, elle est cachée en général quand elle fait ça, donc avant de trouver une mue de salamandre, faut arpenter pendant beaucoup de temps le même endroit, quoi. Voilà.
Donc la salamandre, on était sur la larve qui vit, enfin le têtard de salamandre, pardon, qui vit à peu près 5-6 ans dans l'eau, c'est ça, si j'ai bien compris?
Non, 5-6 mois,
le têtard
de salamandre.
Pardon.
Oui, quelques
D'accord.
mois, c'est variable.
Et donc,
variable.
Elle est adulte rapidement, en fait.
Même au bout de 2 mois, en fait, elle est... Alors, elle peut sortir de l'eau au printemps, ça dépend des conditions un peu environnementales, un peu du moment. Mais de sa capacité à se nourrir, de la température de l'eau, de tout un tas de paramètres. Mais les générations de printemps, ça va plus vite, quoi. Et donc c'est de 2 mois, on sort de l'eau. Et puis sinon, celles qui sont éjectées dans l'eau en novembre, elles passent l'hiver et puis elles sortent au printemps prochain, quoi. Mais et après, quand elle sort de l'eau, elle est pas adulte, elle est à un stade juvénile.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle a des poumons et elle respire. Grâce à ses poumons et grâce aussi à la peau, aux échanges directement avec la peau, à travers la peau plutôt, et elle va passer quelques années là, 5 ans, 6 ans, avant de devenir adulte. Mais ce n'est plus une larve, c'est un juvénile.
Et elle vit toute seule. Qu'est-ce qu'elle fait?
Ah bah la nuit elle se repose, c'est le contraire, le jour elle se repose, sous un abri quelconque, ça peut être une souche, une pierre, un terrier de taupe, une planche, une bâche plastique, enfin bon voilà, ça dépend. Et puis certaines nuits humides, quand la température est... au-dessus de 8 degrés, quoi. Voilà, 10 degrés c'est bien, mais bon, des 8 degrés, on va dire, elle commence à sortir et à vaquer à ses occupations, donc à se nourrir. Mais après, les territoires se chevauchent, en fait, chez les salamandres. Donc elle peut rencontrer là des partenaires et des collègues.
Mais elles ne se battent pas.
Voilà.
Quand il y a deux mâles, par exemple,
ils
ne se battent pas. D'accord. C'est pas trop territorial, quand même.
Sur la période de reproduction, les mâles peuvent un peu se chercher des noises, mais globalement, ça reste très pacifique comme animal. Ouais.
Et elles vont se reproduire combien de fois à peu près dans leur vie, les salamandres adultes?
Si elles le font chaque année, elles commencent à 5 ans, elles peuvent se reproduire une quinzaine de fois, quoi. Pour les plus vieilles d'entre elles, quoi.
Oui, parce qu'on ne peut pas y avoir une reproduction au printemps et une autre en automne, si, quand même. Pour le même individu.
J'ai pas vu grand-chose là-dessus dans la littérature, mais je pense que si, rien ne l'empêche, à mon avis.
Oui.
Parce que c'est vraiment lié aux conditions
quoi,
environnementales,
ouais.
En fait, aux conditions climatiques du moment, la température, l'humidité, etc., etc. Donc en fait, il n'y a rien qui n'empêche qu'une salamandre se reproduise en septembre, en novembre plutôt, commence sa reproduction, que la reproduction s'arrête par l'hiver, mais là, elle stocke du sperme et elle peut relancer la machine au printemps suivant, quoi. Et de même à l'automne de la même année. Donc non, c'est très plastique, en fait, dans la façon d'appréhender la reproduction.
Tant mieux pour elle.
Oui.
Les habitats, on en a dit un petit mot, donc la forêt, les jardins. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir des salamandres dans son jardin? C'est quoi l'idéal? Enfin, un espace,
peut-être? Il y a trois règles, en fait. La première, c'est de bannir l'emploi des pesticides, herbicides.
On n'a plus le droit, de toute façon.
Voilà, tous les joyeusetés qui finissent en cide, parce que ben il y a des il y a un lien direct entre ce qu'elle mange et l'utilisation de ces produits qui visent à tuer sa nourriture, à empoisonner sa nourriture. Voilà, donc soit elle trouve plus à manger, soit elle récupère aussi par le biais des chaînes alimentaires une concentration de produits qui peuvent nuire ou freiner ou altérer sa reproduction. Et puis ben, finalement, ces produits se retrouvent dans l'eau au bout d'un moment. Et puis là, il y a aussi un lien direct entre la pollution par les pesticides, des habitats aquatiques et le développement des larves. Quoi. Voilà, donc dans tous les cas, ça c'est pas bien, il faut le proscrire. Ensuite, il faut ce qu'on appelle un bourrier.
Il faut voilà. Des tas de bois, oui. des rochers,
oui.
des trucs comme ça.
Voilà, des tas de cailloux, un endroit où on fout la paix à la nature et où on n'intervient pas trop, pour qu'elle puisse y trouver des habitats terrestres, quoi, et des refuges, surtout des abris en journée, parce qu'elle est nocturne. Voilà, et puis il faut aussi, donc, pas trop loin, un habitat aquatique capable de...
Ça veut dire quoi, pas trop loin, ouais, ça, c'est à quelle distance
on va dire, allez, une centaine de mètres, quoi.
Ouais,
alors ça peut être soit le ruisseau qui passe en bas du jardin, ou une mare, même un bassin, hein, s'il y a un lavoir à côté, ou si, voilà...
Un lavoir, elle peut se sortir du lavoir.
Oui, parce que c'est en général, il y a des aspérités, il y a de la mousse, il y a des trucs comme ça en général qui poussent au bord du lavoir. Alors si le lavoir il est maçonné, nettoyé et récuré, là c'est un problème.
Moins bien.
Ouais. Mais s'il est, si on lui garde un cachet un peu nature, on va dire, il y a pas de souci, elle ressort de là, ouais.
Et elle a des prédateurs une fois adulte. Enfin, on parlait des chats. Bon, les chats, ils s'y risquent pas deux fois peut-être, mais une fois, éventuellement, ils peuvent essayer de croquer une salamandre, quoi.
Oui. Bah, et puis, on peut même parler des chatons et des chiots, parce que c'est eux, ils sont inexpérimentés et ils peuvent faire cette bêtise-là. Mais il y a des cas isolés où ça peut les tuer, en fait. Hein, voilà, ça dépend des individus, après.
Mais sinon, il n'y a pas d'animal qui mange les salamandres une fois qu'elles sont adultes, en fait.
Non, pas à ma connaissance. Non, l'avertissement est vraiment efficace, quoi. Et, ouais.
Et donc, elles ne sont pas trop menacées. Enfin, quel est l'état de la salamandre, bah, notamment en Bretagne, où le climat, lui, semble plutôt propice?
Oui, en fait, sa situation, elle est... Bon, globalement, par rapport à d'autres amphibiens, elle est enviable, finalement. Ça reste une espèce qu'on peut qualifier de commune, qui ne semble pas menacée dans un court ou moyen terme. Par contre, quand on regarde le tableau de façon un peu plus précise, on se rend compte que, ben, comme tous les amphibiens, ils ont il y a des menaces qui passent sur elles. Donc on a évoqué par exemple la pollution des milieux aquatiques, mais ça peut être aussi la disparition de son habitat, ou la modification de celui-ci, parce qu'on se rend compte par exemple en Bretagne que bien qu'elle reste commune ou très répandue dans les milieux forestiers qui sont ses habitats un peu historiques, dans les jardins, ça dépend du type de jardin qu'on a lui proposé, c'est très variable. Et puis dans le bocage, on se rend compte que là où l'agriculture est la plus intensive, là où les haies ont été arasées ou simplifiées, en fait, elle tend à disparaître. En partie ou complètement, quoi. Ouais, donc elle est à l'échelle nationale, elle est quand même malgré tout en régression.
Alors, Bretagne Vivante est dotée d'un observatoire d'herpétologie.
Oui.
Alors,
enfin,
est-ce qu'elle est suivie?
C'est la région qui est dotée d'un
la
observatoire.
Région, pardon, qui est gérée par Bretagne Vivante.
Oui.
Est-ce que
Vivarmort pour le 22.
Et Vivarmort, elle est suivie donc dans le cadre de cet observatoire, ou est-ce qu'il y a d'autres programmes de suivi de la salamandre à signaler?
Alors, en fait, par rapport à l'espèce proprement dite salamandre tachetée, on a à l'échelle de l'observatoire. Pour l'instant, on relaie une opération nationale de la SHF, qui est la Société herpétologique de France. Voilà.
Parce que herpétologie, c'est les reptiles et les amphibiens.
Oui, ouais, oui, 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 oui. Et donc, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site undragon.org.
Ah, bah voilà.
Voilà, on en revient au dragon, ce que ouais. tu disais en début d'émission. Mais... Et en fait, la SHF organise une opération qui s'appelle la Nuit des Dragons. Voilà, et qui concerne la salamandre tachetée.
C'est quand ?
Alors, c'est quand on veut, en fait.
Ah bon, d'accord.
C'est pas une nuit en particulier, c'est parce que c'est en fonction des territoires et de la météo qui fait, quoi.
Il faut être éveillé, quoi. Ouais. Et on observe toute la nuit, c'est ça ? Enfin, une partie de la nuit ?
Non. En fait, il faut attendre le coucher du soleil. Hein. C'est vraiment la nuit. C'est pas le soir au crépuscule, c'est vraiment la nuit. Si il fait 10 degrés, c'est mieux. Si il pleut après 2-3 jours de temps sec, c'est encore mieux. Et là, on va à un endroit où on sait que la salamandre est présente, un chemin forestier, on déambule pendant 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, on compte le nombre de salamandres qu'on voit.
D'accord. Et après, on transmet.
Donc, d'accord. c'est pas très lourd, quoi. Tout le monde peut le faire. Ouais. En fait, et l'idée de ce protocole... Alors, il faut aller voir avant, en fait. Avant d'aller dehors, là, il faut aller voir sur le site uninsecte.org, parce qu'il y a un bulletin d'inscription.
Undragon.org.
Ouais. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais...
Bah,
voilà.
Il faut des insectes, mais bon. D'accord.
Et non, undragon.org. Et du coup, parce que, bon, il faut relever un peu la météo, mais de façon très simple. Enfin bon, voilà, il y a donc allez voir ça avant. Et voilà. Et après, oui, c'est ça que je voulais dire. L'idée, c'est de reproduire chaque année,
d'accord.
en fait,
ah oui.
parce que l'objectif de cette science participative, c'est d'évaluer
au même endroit,
l'évolution d'accord. des populations à l'échelle de la France. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent. Que la SHF récupère plein de données et le faire régulièrement année après année.
D'accord, on mettra tout ça sur le site de Radio Évasion, vous pourrez réécouter cette émission. Merci Stéphane Vizard, on retrouvera le prochain LEM de Bretagne Vivante d'ici un mois.